Bonjour à tout le monde. Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous arrivons sur le dernier message d'une série de messages sur le repas du Seigneur. Et ce n'est pas un sujet anodin parce que vous savez bien que cette église a eu bien des problèmes. Mais ce n'est qu'avec ce sujet que l'apôtre va leur dire, à cause de l'abus dans ce domaine, il y a des gens qui sont faibles, qui sont malades, et même plusieurs sont morts. Donc c'est un sujet qui porte quand même une certaine importance pour cette église et pour nous aujourd'hui. Nous aide. Donc nous allons lire à partir du verset 27, chapitre 11 et verset 27. Voilà. Où vraiment il parle ici de la manière qu'il faut prendre le repas du Seigneur. C'est pas très long en fait, là où il nous dit comment faire. Il dit, chapitre 11, verset 27, 1 Corinthiens, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Alors le sujet du message, le titre même, est pris du verset 27, où l'apôtre parle de quelqu'un qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement. Et la question à laquelle nous sommes confrontés, c'est comment faire pour le faire dignement, pour manger et pour boire dignement. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait vu il y a maintenant un mois ensemble. Nous avons vu d'abord l'impératif de manger et de boire. Et nous avons noté qu'au verset 28, il y a trois impératifs. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le deuxième impératif du pain et boive troisième impératif de la coupe. Donc, la Bible nous dit « Ne mange pas si telle ou telle chose est en place. » La Bible dit « Mange », c'est un impératif, mais manger ainsi, manger de cette façon. Ce n'est pas donc un luxe pour le chrétien de manger et de boire. Et puis nous avons vu, deuxièmement, ce que c'est de manger et de boire dignement. Qu'est-ce que cela veut dire ce mot « digne » ? Et nous avons vu que c'est un adverbe qui parle de la manière dont nous prenons le repas. Ce n'est pas un adjectif qui nous décrive comme étant digne, mais un adverbe de la façon dont nous le faisons. C'est une réalité qui doit correspondre avec une autre. Nous devons manger d'une façon qui correspond ou qui concorde avec, qui convient à, qui s'harmonise avec le repas du Seigneur. Donc, ce n'est pas notre caractère, c'est notre comportement qui est visé ici. Ce n'est pas ma personne qui est digne, c'est ma pensée qui est digne. Ce n'est pas ce que je suis, c'est comment je fais lorsque je prends la scène. Et puis, nous avons vu troisièmement les conséquences de manger et de boire d'abord indignement. Et puis, deuxièmement, de boire dignement. Et nous n'avons pas le temps de dire ce qu'ils sont. Mais nous voulons venir rapidement au quatrième aujourd'hui. Comment donc manger et boire dignement? Que doit-on faire? Comment est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que chacune, que chacun ici, mange d'une façon digne? Et je veux, en guise d'introduction, noter juste deux observations. Et la première est celle-ci, qu'observer dignement la scène ne dépend pas de la nature des éléments. Ce n'est pas que les éléments doivent être transformés ou manipulés ou autre chose. La Bible n'en parle pas de cela. Et que deuxièmement, observer dignement la scène ne dépend pas de celui qui distribue les éléments. Jamais vous allez lire dans la Bible « discerner ou vérifier les éléments ». La Bible ne dit pas ça. Ou est-ce que c'est du pain commun ou du pain spécial ? La Bible ne dit pas, il faut discerner, voir qui est-ce qui distribue la scène. Est-ce que c'est un prêtre? Est-ce que c'est quelqu'un, voilà, qui est digne lui-même? Non, la Bible ne nous dirige pas dans ces directions. C'est pas cela qui va nous donner un repas digne ou indigne. L'église de Corinthe avait, en fait, des évêques, hein, pour utiliser un des mots bibliques, qui étaient directement établis par les apôtres eux-mêmes. Nous savons que Pierre avait fait visite à cette ville, Paul avait bien sûr fait visite à cette ville, mais cette succession apostolique directe, si vous voulez, n'a pas empêché le fait que quand ils mangeaient, le Saint-Esprit leur dit que ce n'est pas le repas du Seigneur que vous mangez, même avec des anciens établis personnellement par Paul et Pierre. Donc vous voyez, c'est pas les évêques ou les prêtres ou les pasteurs qui va nous donner un repas digne du Seigneur. La réponse se trouve ailleurs. Et si vous regardez les versets 28 et 29, manger et boire dignement est une question de notre jugement, notre discernement, notre estimation. C'est ça vraiment, je crois, la première chose qu'il faut noter par rapport à un repas digne, le fait de manger dignement. Je d'abord m'engage dans une activité. Je m'engage dans une activité. Selon ces versets, d'éprouver et de discerner. Alors, il y a deux façons de voir ces mots, éprouver, discerner. Et je désire que nous puissions tous discerner la différence entre ces deux façons de le voir. Il y a la façon objective, où je suis l'objet du jugement. Je suis l'objet de l'estimation qui est faite. Je suis, si vous voulez, jugé. Je reçois une note à l'école, etc. Et puis il y a subjectivement, c'est-à-dire je suis le sujet, c'est moi qui juge. C'est moi qui estime. C'est moi qui valorise ou qui éprouve, et c'est donc moi qui rend le jugement. Alors, selon vous, c'est lequel dans ces deux versets? Est-ce que c'est quelque chose que je reçois, le discernement, quelque chose qui m'est donné, ou est-ce que c'est quelque chose que je fais? Manger et boire dignement, vous avez pris votre choix? Manger et boire dignement ne dépend pas du jugement que je reçois, mais du jugement que je donne. Ça ne dépend pas d'une évaluation que je reçois. Bon, aujourd'hui j'ai 7 sur 10, donc j'ai le droit de manger. Le mois dernier, j'avais que 3 sur 10, voilà, donc je ne pouvais pas manger. Ce n'est pas ça du tout. Cela dépend de l'évaluation que je donne. Est-ce que j'ai bien évalué les choses? Alors, est-ce que nous avons bien distingué la différence? Parce que je pense que c'est deux façons très différentes de voir les choses. Je ne prends pas le repas en disant « Est-ce que j'ai réussi le test que quelqu'un d'autre m'a donné ?» Mais plutôt, est-ce que j'ai bien testé? Est-ce que j'ai bien administrer l'épreuve. Ce n'est pas la même chose. Hier, on était, ceux qui lisent le livre sur la personne de Christ étaient là et Michael avait proposé un contrôle continu. Et là, il y avait quelqu'un qui a été très choqué. Je ne vous donne pas son nom, mais son prénom, c'est Albert. Il a dit, je n'ai pas l'habitude de recevoir des contrôles. Normalement, c'est moi qui donne des contrôles. Donc, ce n'est pas la même chose. Ici, on ne reçoit pas le contrôle, en fait. On donne le contrôle. C'est moi qui rends le jugement. Et ce que le Seigneur cherche n'est pas une estimation isolée de ma vie. Voilà, moi j'ai cette note. Lui fait plutôt bien, elle fait peut-être encore mieux, etc. Non, ce que le Seigneur exige, c'est que j'ai une certaine estimation. Que je fasse moi-même un jugement. Regardez le texte avec moi. Regardez, on va partir du verset 27. On va reprendre, mais c'est le verset 28 et 29 où on le voit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc, et puis un verbe actif. Il y a le verbe éprouver. Vous devez vous mettre à éprouver. Et puis regardez le verset 29. Car celui qui mange et boit sans, et puis là, il y a encore un verbe actif, discerner. Mais si quelqu'un le fait sans engager dans cette activité, il mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut donc éprouver, il faut discerner. Et ce n'est pas moi qui suis avant tout l'objet de l'activité, mais la source de l'activité. Ce n'est pas moi qui suis éprouvé ou discerné par un autre, c'est moi qui éprouve et qui discerne. Manger et boire dignement ne dépend pas du jugement que je reçois en premier lieu, mais du jugement que je donne. Je dois donc m'engager dans cette activité d'éprouver et de discerner. Quand nous venons à la table du Seigneur, nous devons nous engager mentalement dans cette activité. Et je note en passant que c'est une des raisons que nous ne donnons pas la scène aux bébés, aux petits-enfants. Dieu avait dit à Jonas qu'il se trouvait dans la ville plus de 20 000 hommes qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est vraisemblablement une référence aux petits qui ne pouvaient pas distinguer sa main droite de sa main gauche. Et si on ne peut pas le faire, eh bien, il est fort possible qu'on puisse pas distinguer, juger, discerner des choses beaucoup plus importantes qui sont mentionnées dans ce passage. Mais en venant à la table, nous devons nous engager dans cette activité. C'est une activité donc, mais il y a deux objets. Vous les avez notés? Il dit, pour reprendre le verset 28, que chacun donc s'éprouve qui? Soi-même. Donc ça c'est un des objets. Et puis au verset 29, que celui qui mange et boit sans discerner, quoi? Le corps du Seigneur. Donc là, nous avons un deuxième objet. Donc, je dois m'engager dans cette activité d'éprouver, de discerner. Il y a deux objets et les deux objets sont liés, en fait, comme nous verrons. Mais le premier des objets, c'est soi-même. Le verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Alors, si vous vous rappelez de l'étude que nous avons faite il y a quelque temps sur le discernement, c'est ce mot ici, que chacun donc s'éprouve, se discerne lui-même. C'est l'idée d'examiner soigneusement quelque chose afin de déterminer son authenticité. Et ça comprend deux éléments. Il y a un examen qui est fait, un test qui est donné, pour éprouver l'or, par exemple, ça parle de cela en 1 Pierre. Et puis, à la fin, une évaluation qui est faite. L'or est déclaré bon ou pur, ou le diacre est éprouvé pour être reçu. Et donc, voilà ce que la Bible nous appelle à faire, s'examiner, se sonder, afin de pouvoir s'évaluer d'une manière juste et biblique. Dans l'Ancien Testament grec, c'est souvent traduit par ce verbe « sonder ». Et on doit se sonder nous-mêmes. Et le danger bien sûr, et qu'on pense d'être une chose, tandis que nous sommes une autre. Celui qui leurrait en premier concernant nos propres états, c'est toujours nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est la personne qui ment, qui croit toujours ses mensonges en premier. Et Romains 1, 22 parle de gens qui se vantent d'être sages, et ils sont convaincus de l'être, mais ils sont devenus fous dans les yeux de Dieu. Alors comment pouvoir s'évaluer, se sonder d'une façon correcte et biblique? Alors je vous donne trois idées qui pourraient, j'espère, qui sont pratiques. Trois P, donc, pour nous aider à les garder, les mémoriser. Et le premier de ces trois choses, on pourrait le dire ici, en personnalisant la Bible. On parle de s'examiner. Comment s'examiner? Je crois que la première étape, c'est de personnaliser la Bible, c'est-à-dire le spot de l'Écriture, vraiment de le mettre sur nos vie à nous. Et je vous invite de suivre avec moi, je l'ai ici, Jacques, chapitre 1, versets 22 à 24, où nous trouvons ce même danger. Et ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors, j'ai une question pour les ados parce que je crois qu'ils ont mémorisé ce passage l'année dernière. Dans ce texte, la Bible est comparée à quel outil de la vie? Outil très commun. Je crois que les filles s'en servent beaucoup plus que les garçons, mais bon, c'est quand même commun. Et c'est quoi? C'est un miroir. Je continue. Mais imaginez que c'est un miroir, mais la Bible est un miroir modèle. Il y a ces deux idées que je veux que vous captez dans l'esprit. Un miroir modèle. Alors, j'ai cherché ça sur Internet, je n'ai pas trouvé. Mais imaginez avec moi un miroir qui a le contour d'une personne qui est dessinée sur le miroir. D'accord? Disons que le contour d'une personne qui a les bras en l'air. Okay? Si vous vous mettez devant le miroir, vous pouvez placer vos bras dans le schéma qui est déjà dessiné dans le miroir pour prendre à peu près le même contour que ce qui est dessiné dans le miroir. Mais pour le faire, vous êtes en train, peut-être même pas consciemment, mais vous êtes en train de regarder à deux choses. Vous êtes en train de regarder au schéma, au contour qui est dessiné, c'est-à-dire le modèle, et aussi à votre propre reflet dans le miroir, et vous êtes en train d'ajuster votre corps pour que votre reflet qui revient vers vous s'accorde avec le contour qui est dessiné sur le miroir. Et c'est exactement ça qu'est la Bible. La Bible nous donne, Michael nous a parlé il n'y a pas longtemps de l'exemple de Jésus-Christ, et nous devons suivre ses traces. Ça, c'est, si vous voulez, le contour auquel nous devons nous ajuster. Mais en même temps, la Bible se sert de miroir pour nous montrer où nous en sommes par rapport à ce modèle. Et quand nous regardons la Bible, nous devons faire face à deux réalités. La réalité, donc, du modèle qui nous est offert, mais la réalité de ce qu'elle dit de moi et comment je suis placé par rapport à ce modèle. Alors, encore une question pour les ados. Qu'est-ce que l'homme oublie en partant dans cette illustration que Jacques donne? Qu'est-ce qu'il oublie? Qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie comment il était lui-même. C'est comme ce matin, ma femme m'a dit, tu t'es coiffé? J'ai dit, oui, je me suis coiffé. Mais elle a dit, mais ça n'a pas l'air. J'ai dit, bon, je l'ai fait. Elle a dit, mais quand on se coiffe, l'air, c'est la réalité. Si ça n'a pas l'air, c'est que tu n'es pas coiffé. Donc, on a eu cette discussion ce matin. Pour moi, c'est une activité. Pour elle, c'est la réalité à la fin. Mais c'est quand même fascinant hein, qu'il oublie lui-même. Et ça m'a fait penser au fait que c'est souvent plus facile de retenir ce que la Bible dit de Dieu que de ce qu'elle nous révèle d'être, nous-mêmes. Mais pour s'examiner, il faut pouvoir confronter ce que nous sommes avec ce que dit la Bible. Il faut activement appliquer les commandements de la Bible à nous-mêmes. Il faut que je me rappelle du fait que Dieu me parle, que ses commandements sont pour moi, que ses demandes sont pour moi, que les promesses sont pour moi à croire aussi. Par exemple, la semaine dernière, pour ceux qui étaient à Sarcelles, nous avons pris plusieurs exhortations de Paul comme exemple d'exhortations que nous pouvons donner les uns aux autres. Mais est-ce que nous nous confrontons nous-mêmes sérieusement à ces exhortations ? Hein, j'en prends plusieurs que j'imagine que vous connaissez bien. Par exemple, Romains 12, 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est facile à lire. C'est facile à lire. Mais vous, les jeunes qui faites la géométrie, vous savez ce que c'est de superposer une chose à une autre. C'est disposer une figure sur une autre pour démontrer l'égalité entre ces deux choses. Donc, on prend le papier calque et on le fait, on superpose sur le modèle et on voit s'il y en a eu raison ou non. Et voilà donc l'exigence de la Bible. C'est facile à lire, mais est-ce que je me superpose, si vous voulez, sur cette exhortation pour voir si le contour de ce que me demande la Bible est le même que le contour de ma vie? Est-ce que je m'examine à la lumière de ce texte et des textes spécifiques? Parce que si on le fait en général, bon, voilà, c'est comme on demande dans la rue, êtes-vous pécheur? Bon, oui, tout le monde est pécheur. Oui, mais est-ce que vous avez péché en vous fâchant ce matin? Non, non. Vous voyez, c'est facile de dire dans un sens général, mais là, il faut se superposer à des textes spécifiques de la Bible pour voir où nous en sommes. C'est une grande différence, vous voyez, entre lire la Bible et prendre le temps pour se demander est-ce que ma vie est conforme à cela? Prenons un autre commandement, Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans sans murmure, ni hésitation. Alors, est-ce que j'ai superposé ma vie sur ce commandement pour que je puisse vous dire, ben, par rapport à ce que demande le Seigneur, je suis à ce stade. J'ai encore ça à faire, mais je suis là, j'ai réfléchi. Prenons un autre, Éphésiens 4, 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce qu'on s'est arrêté sur ce verset pour s'examiner? J'espère que vous voyez le danger dont parle Jacques. Ce n'est pas qu'on oublie ce que dit la Bible. Ce n'est pas qu'on oublie, ah, la Bible nous dit ne pas nous mettre en colère. Bah oui, c'est oublié. Non, on n'oublie pas ça. Le danger beaucoup plus subtil, c'est qu'on oublie comment nous sommes par rapport à ce qu'exige la Bible. Que nous oublions l'écart qui existe entre ce que demande la Bible et nous-mêmes. Le danger n'est pas qu'on oublie toujours le modèle, mais qu'on oublie comment nous comparons au modèle. On peut lire, par exemple, les paroles de Jésus, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, Matthieu 5, 28, puis commettre cette forme exacte d'adultère sans faire de lien avec ce que Jésus a dit, sans se sentir coupable même d'adultère, sans vraiment s'examiner. Et il faut réaliser quelque chose ici, c'est que s'excuser, c'est le contraire de s'examiner. C'est le contraire. Le dictionnaire, j'ai même trouvé comme définition du verbe excuser, se mettre à l'abri d'un reproche, d'une sanction. Se mettre à l'abri. Ça, c'est le contraire de s'examiner. Quand on s'examine, on ne se met pas à l'abri, on se met à la lumière, n'est-ce pas? Quelle est donc notre réaction face aux exigences de la Bible? Est-ce qu'on se met à l'abri? Ou est-ce qu'on se met à la lumière de ce que nous dit la Bible? On peut écouter un message même qui parle de ces choses. Et tout de suite, on se met à l'abri. Tout de suite, on se trouve des excuses. Et nous sommes convaincus, bon, c'est tout ce qui compte dans nos vies quand même. Et donc, on se sent même pas concerné par ce qui est prêché ou ce qui est écrit dans la Bible. Et quel est le danger quand on s'excuse ou quand on refuse de s'examiner à la lumière de la Bible? Réécoutez l'avertissement de Jacques 1:22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous, quoi? Trempant vous-même. C'est un grand danger. Il y a des milliers de gens qui se sont trompés eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas s'examiner quelque chose que nous devons faire une fois par mois, c'est tous les jours devant le miroir de la Bible. C'est une habitude en lisant la Bible de s'examiner face à ces choses. Mais vous savez, la scène nous confronte à nos responsabilités. C'est comme si elle nous traîne au tribunal, mais au lieu de nous placer sur le banc des accusés, elle nous traîne devant, elle nous met dans la chaise du juge et elle nous dit « juge maintenant ». On écoute, quel est ton verdict? Quel est ton jugement? Discerne, éprouve, estime et assure-toi qu'il soit correct et bon. Donc c'est en personnalisant la Bible que nous pouvons nous examiner. C'est deuxièmement en priant pour l'éclaircissement du Saint-Esprit. Ça c'est le deuxième P. C'est-à-dire, c'est inviter le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Il est venu, Jésus a dit de l'Esprit, convaincre le monde du péché. Il veut avoir ce ministère dans nos vies. Le psaume 139, 23 et 24, c'est la prière qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 26, 2 dit, sonde-moi éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, c'est-à-dire tout ce qui est aux profondeurs de moi. C'est comme les disciples qui disaient à Jésus, est-ce moi, Seigneur? Nous pouvons nous approcher du Seigneur avec cette même esprit. C'est le contraire de ce qu'a fait ou ce qu'ont fait Adam et Ève après leur péché. Quand Dieu est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Mais là, c'est le contraire. On vient à Dieu pour lui demander de nous éclairer. Est-ce que vous avez cet esprit envers Dieu? Jean 3:19 dit que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Est-ce que vous venez à la lumière? Est-ce que vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit, qu'il vous convainque du péché? Et puis, troisièmement, en pensant à notre mémoire. Et là, je pense à Matthieu 5:23 qui dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Il ne faut pas ignorer les souvenirs que Dieu apporte à la mémoire. Il ne faut pas les chasser. C'est une des façons que l'Esprit nous aide. Il nous apporte des choses. On se souvient des choses. On n'a pas besoin de les fuir. Nous pouvons les affronter avec l'aide de Dieu. Donc, nous devons nous engager dans cette activité d'éprouver, de discerner soi-même. Alors, si on a fait cela, qui se retrouverait juste devant la scène? Si on disait, si le pasteur Albert avait dit que celui qui n'a pas trouvé de faute prenne le pain en premier, nous trouverions bientôt la salle toute vide, je crois. Heureusement, nous avons plus. Parce qu'après avoir fait cela, nous devons tourner les yeux ailleurs. Regardez ce qu'il dit au verset 29. Il faut discerner aussi le corps du Seigneur. Et il y a un lien entre la façon dont je m'éprouve moi-même et que je discerne le corps du Seigneur. Si je ne fais pas correctement le premier, je ne pourrai faire le deuxième. Mais le verbe traduit discerner au verset 29 signifie séparer, distinguer, discriminer, si vous voulez. Et j'aime bien ce que Jean Chrysostome, qui est né à Antioche dans les années 340 après Jésus-Christ, il a dit « Ne pas discerner le corps de Christ et de ne pas sonder, de ne pas prendre en compte comme il faut la grandeur des choses mises devant lui, de ne pas estimer la valeur du don. » Et Jésus a dit la nuit où il fut livré, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Mais nous, si nous prenons ce repas comme s'il était tout un simple repas, sans distinguer, sans valoriser, sans sonder le corps de Christ, le repas duquel nous célébrons, nous invitons le jugement de Dieu sur nous. C'est ce que faisait cette église. Elle mangeait ce repas. Ben, vous lisez, vous voyez, elle faisait n'importe quoi. Chacun de sa manière. Et probablement, ils agissaient mieux dans des fêtes païennes que lors du repas du Seigneur. Alors, je vous rappelle qu'il y a au début du verset 29 le mot « car ». Que chacun donc, qui dit verset 28, s'éprouve soi-même et ainsi il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il me semblait donc qu'il y avait un lien entre s'éprouver soi-même et discerner le corps, mais j'avoue que j'ai été tracassé par où est ce lien entre ces deux. Je suis actif dans les deux. Mais il semble dans ces versets que je dois aussi faire le rapprochement entre un examen que je fais de moi-même et le discernement que je fais du corps de Christ. Et en réfléchissant, j'ai réalisé que les choses, en fait, vont de pair. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir une vue correcte sur moi-même et puis une vue correcte sur Christ et ce qu'il a fait. Et pouvoir, à l'aide du premier, bien estimer et apprécier le deuxième. Et je pense qu'il y a ici deux pièges possibles lorsque je discerne le corps du Seigneur dans le repas. Le premier piège serait ceci. J'estime mon péché insignifiant. Et ainsi, je dévalorise la mort de Christ. C'est-à-dire, quand Dieu me demande de m'examiner, franchement, je ne mets pas mon travail à le faire, je ne mets pas mon pensée, mon esprit, ma prière, ma réflexion à le faire. Je ne trouve rien parce que je n'ai rien cherché. Qu'est-ce que je fais par rapport à la mort de Jésus-Christ et son corps qui a été livré pour moi? Je dévalorise ce qu'il a fait. Je suis en train de dire... Ce que j'ai fait n'est pas si grave que ça. Hein? Par exemple, si je dis que ce n'est pas ma faute, ben, je refuse donc d'être pardonné. Il y a des gens qui seront insultés si vous leur disiez ben, « je vous pardonne hein? ». Pardonnez, mais je n'ai pas besoin de pardon. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si je n'ai rien fait de mal, si ce n'est pas ma faute, si c'est les circonstances, ma vie, etc., je n'ai pas besoin de son sang. J'ai pas besoin de sa mort. Vous voyez, en minimisant le péché, je minimise aussi le salut qui m'est offert de ce péché. Et donc, c'est pour ça, le Seigneur désire que nous examinions pour apprécier un peu plus la profondeur de notre état pécheur pour pouvoir apprécier mieux la grandeur de son salut. Donc, ne minimisons pas notre péché. De le faire serait de dévaloriser la mort de Christ. Et l'autre piège, c'est que j'estime mon péché impardonnable. Et ainsi, je dévalorise la mort de Christ. C'est-à-dire, je confronte mon péché à la mort de Jésus-Christ. Et je dis, dans le premier piège, je dis, bon, mon péché n'est pas très grave. Donc, j'ai besoin d'un pansement, en fait. Pas de la mort de Christ. Pas d'un corps rompu. Dans le deuxième piège, je dis, mon péché est tellement vaste que même la mort de Christ ne peut pas, n'est pas suffisante. Et si j'estime mon péché impardonnable par la mort de Christ, eh bien je dévalorise la mort de Christ. 1 Pierre 2, 24 dit que Jésus a porté lui-même dans nos péchés en son corps sur le bois. C'est un fait historique. Et si on dit, ce n'est pas suffisant quand même pour pardonner ce péché à moi, ben nous dévalorisons la mort de Christ. Nous ne discernons pas la grandeur et la valeur du sang de Christ et de son corps. Donc, vous voyez, prendre la coupe sans se confier entièrement dans le sang de Jésus-Christ qui nous pardonne de tout péché et lui-même un péché. De prendre la coupe et de dire, oui, c'est Jésus plus quelque chose de plus que j'offre moi-même, c'est de dévaloriser la valeur de ce qu'a fait Jésus-Christ. Nous devons venir avec foi dans le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, la Bible dit. C'est pour ça que j'aime bien les mots d'un théologien allemand qui s'appelait Zacharius Ursinus. Il a écrit cela en 1563, donc ça date. Ça vient du catéchisme de Heidelberg. Et la question est celle-ci. Qui sont ceux qui doivent venir à la table du Seigneur? C'est une bonne question. Et lui, il dit, donc ça existe donc depuis le XVIe siècle, hein, il dit, ce sont ceux qui ont honte d'eux-mêmes à cause de leur péché. Donc, il y a une honte. Ils croient cependant que ceux-ci leur sont pardonnés et que les faiblesses qui leur restent sont couvertes par la passion et la mort du Christ. Vous voyez, ils ont honte, ils ont examiné eux-mêmes, comme demande la Bible. Mais ils ont foi dans la mort et la patience, c'est-à-dire la souffrance de Jésus-Christ. Ils désirent aussi affirmer de plus en plus leur foi et améliorer leur vie. Mais les hypocrites et les pécheurs obstinés mangent et boivent leur propre jugement. Alors, selon la Bible, qui est jugé? Et je crois que ces deux phrases nous le disent. Il parle des hypocrites. C'est-à-dire, c'est ceux qui prennent le repas. En prenant le repas, on dit « je crois », n'est-ce pas? C'est une déclaration de foi en Jésus-Christ. Mais les hypocrites, ils font semblance de dire « je crois », mais sans croire vraiment dans Christ, dans la suffisance de la mort de Christ pour tous leurs péchés. Et puis, deuxièmement, il y a les pécheurs obstinés. Ça, c'est ceux qui, par le fait de prendre le repas, disent « j'abandonne mon péché ». Tout en chérissant un péché secret. C'est deux dangers que nous confrontons face à la scène. Est-ce que je crois et est-ce que j'ai abandonné mon péché? Alors que Dieu nous aide à venir dans la repentance et dans la foi à cette table. Les sacrifices qui lui sont agréables, sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, dit la Bible. Et comme dit un commentaire sur ce verset en psaume 51, il ne s'agit pas d'un esprit fortement ému, il ne parle pas de ça ici, mais d'un esprit qui ne se cherche plus d'excuses et dans lequel tout ce sentiment d'autosuffisance a été brisé. C'est ça que je cherche. Dieu cherche plus d'excuses et plutôt plus d'autosuffisance. Alors que faire avec toutes nos lacunes et tous nos péchés du passé? Je vous laisse avec cette note d'espoir parce que ça m'a béni aussi du pasteur français Adolphe Monod. Il a dit, dites-vous bien qu'il n'y a pas d'erreur, pas de préjugés, pas de mauvaises habitudes, pas d'infirmité morale, quelle qu'elle soit, qui ne puisse, une fois reconnue, entrer à leur manière dans le plan de Dieu et vous rendre plus propre à le servir aujourd'hui que vous n'auriez pu l'être sans leur secours. Vous avez des choses comme ça dans votre passé où, franchement, chaque fois que vous venez à la table du Seigneur, vous avez honte. Et vous donnez ça au Seigneur. Eh bien là, l'espoir, c'est que même quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Avec la grâce du Seigneur, même ces lacunes dans le passé, même ces péchés peuvent être sanctifiés pour concourir à notre bien, si nous aimons Dieu. Dieu ne veut pas nous punir, il veut nous forcer à nous confronter nous-mêmes à notre péché tel qu'il est. Il veut nous pousser à l'amener après au calvaire par la repentance et par la foi. Il veut nous donner la force de marcher en toute nouveauté de vie avec lui. Seigneur, nous aide à manger et boire dignement. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous guide, mais qui nous nourrit aussi, qui nous juge et qui nous sauve, qui nous donne de la honte et qui nous donne aussi le réconfort. Et nous prions que sa parole, par ton esprit, puisse avoir ce ministère dans chacune de nos vies, pour que nous puissions ne pas être comme cette Église que tu as beaucoup aimée, mais qui, par leur manière de faire, a porté un déshonneur à ton nom. Nous voulons apporter l'honneur, nous voulons t'adorer, te glorifier. Aide-nous à le faire, nous prions. Amen.